France Inter.
Bonsoir Luc Chemla et merci pour ces informations. Elles sont pas du tout riantes, on l'a bien entendu, mais nous notre mission c'est d'alléger votre soirée, de reculer le lundi matin ou de prolonger les vacances si vous êtes en vacances. Toute la troupe est tapie dans l'ombre du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, quelques étages en dessous de vous mon cher Luc. Et toute la troupe est prête à bondir sur scène et dans vos oreilles. François Audouin, notre réalisateur, top antenne.
En public et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir.
Parce que c'est notre projet.
2 heures de rire, d'émotion et de musique avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Chewbacca, Laëlia Véron, Areski Sugar, Jamil Le Schlag et Frédéric Crové. Et la reine de la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui attend avec impatience demain l'ouverture officielle de la campagne des élections européennes pour flinguer, par le rire hein, bien sûr, les politiques en toute impunité, Charline Padounaka.
Le grand dimanche soir. Sur France Inter.
Bonsoir la France Inter. Je vous résume les annonces gouvernementales de la semaine.
Ouais.
Le logement social à vie, c'est fini. Et fonctionnaire à vie, c'est fini. Par exemple, toute une vie à la poste, c'est fini. Sauf si vous êtes venu récupérer un colis. Pour le ministre Stanislas Guérini, le licenciement dans la fonction publique ne doit plus être un tabou. Il faut que les fonctionnaires donnent l'exemple. Imaginez si nos élus étaient sans cesse réélus. Ils feraient carrière toute leur vie et ça poserait un problème démocratique. Ouais. Le président de la République, lui, il donne l'exemple. Le président, c'est un CDD de 5 ans, renouvelable une fois. Et après, au revoir, merci. Donc lui, il n'a que 10 ans pour réussir à détruire les acquis sociaux. Et c'est peu, ça le met constamment dans l'urgence. Oui. Donc le gouvernement avait le choix d'en finir avec les polluants à vie et conserver le statut des fonctionnaires. Il a fait l'inverse. Voilà. Après, qui sommes-nous pour juger? Le logement social à vie, c'est fini aussi, nous dit le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Enchanté, monsieur. Lui, il va penser que quand tu vis en HLM, tu rêves d'y passer toute ta vie. En fait. Alors oui, si, occuper un logement social à vie, c'est l'espoir de voir un jour l'ascenseur de l'immeuble fonctionner. Alors quand un locataire aura atteint un certain plafond de revenus, il devra quitter son logement. Et ça, c'est toujours émouvant de voir un mec qui gagne 10 000 euros par mois et qui a un logement de fonction, expliquer à des gens qui gagnent 200 euros de trop qu'ils vont devoir déménager. En plus, ça crée une belle dynamique, hein, c'est... C'est-à-dire, quand t'as enfin trouvé un nouveau boulot, tu peux te changer les idées en cherchant un nouveau logement. Alors, avec ce système, il y a des patrons qui vont se dire, tiens, Michel, il habite en HLM, non ? Ben, c'est à lui qu'on va proposer une augmentation. Comme ça, il sera obligé de la refuser. Le ministre demande d'évaluer la situation financière des locataires de logements sociaux. Donc, on va traquer les jacuzzis dans les HLM et les piscines dans les cages d'escalier. Parce que dans les quartiers, il y a quelques nantis qui se payent le luxe de manger 2 repas par jour. Il y en a même qui ont les moyens de mettre du beurre dans les coquillettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces petits profiteurs des HLM, là, ils ont carrément l'eau courante. L'eau courante à vie. Alors voilà, le gouvernement s'attaque aux chômeurs, aux locataires HLM, aux fonctionnaires, aux étrangers. En fait, le gouvernement, c'est une chronique de Gaspard Proust. Donc la solution de l'État pour renflouer les caisses, c'est pas de taxer les super riches, mais de contrôler les presque pauvres. Le tout au prétexte de soutenir les classes moyennes. Le gouvernement soutient les classes moyennes avec des mesures très moyennes et pas très classe. Émeric, qu'est-ce qui se passe, Émeric? On dirait que tu fais la gueule.
Non. Vous pouvez continuer, Charline.
Ok. Donc
non, attendez, je vais quand même vous le dire, je suis un pilier de l'émission.
Ouais.
Pourquoi il y a un nouveau dans l'équipe?
Alors, déjà, le nouveau, il s'appelle Areski. Et tu le connais, puisqu'il était venu faire un tremplin.
Mais pourquoi tout changer alors qu'on était hyper bien entre nous? Déjà, pour Jamil, bon, j'avais rien dit.
Si.
Ouais, si, j'avais dit.
Oui.
C'est pour Mao. Mao, j'avais rien dit pour Mao.
Si, t'avais dit.
Oui, j'avais dit. C'est pour Charline, j'avais rien dit pour Charline.
Ouais, c'est elle qui a créé l'émission, elle était là avant tout le monde.
Bon, bah, je suis un con alors.
Bon, bah. Areski Sugar, t'es content d'être avec nous?
Ravi d'être si bien accueilli par Émeric. Après, j'ai vu les actus ce matin. A priori, je suis là que pour 2 semaines, quoi.
Ah, cool, 2 semaines.
Non, mais. C'est par rapport à l'apocalypse nucléaire, mais...
Allez, on va passer à la musique. On va passer à la musique, car c'est le moment d'accueillir le groupe qui vient jouer en live et ambiancer ce grand dimanche soir en direct sur France Inter. C'est un duo qui s'appelle Donna Blue, Chewbacca.
Eh ben oui, les Donna Blue sont hollandais. Leur deuxième album a pour titre Into the Realm of Love chez Snowstar. Ils chantent en français, en anglais. Ils ont pour musique de référence vraiment la pop des années 60. Mais alors, leurs paroles, elles sont bien d'aujourd'hui. Alors, la chanson qu'ils nous interprètent parle du cheminement de la création. Ça commence par jette les dés et part dans le mystère. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Labyrinthe de joie et de misère. Et donc, la chanson s'appelle Labyrinthe. À vous.
Joost van Eek, à la guitare Denzel Sprinkling et à la batterie Dirk Schonk. Bravo à eux. Votre nouvel album s'appelle Into the Realm of Love. Vous serez le 24 avril au Hasard Ludique. Et puis cet album, il est déjà disponible. On va vous retrouver en deuxième heure parce que vous nous avez promis une reprise. Vous n'êtes pas venu des Pays-Bas pour rien ici à Paris, à la Maison de la Musique. Et en tant qu'à moitié flamande, je peux vous dire... Ik ben blij u te mogen verwelkomen. Dank u wel. Les Donna Blue et à tantôt, comme on dit chez moi. Alors, merci également à Stéphane Foulon et Laurent Baudouin à la prise de son et au mixage de l'émission. On va passer aux actualités qui sont assez écrasantes depuis ce matin, encore plus que d'habitude, c'est-à-dire. Et, mais, donc c'est le moment de surtout pas se décourager, hein, d'aller chercher les petites pépites comme ça.
Il y en a plein.
Plein de pépites.
Mais oui.
Qui feront comme ça plein de petits raies de lumière qui vont aller dans les fissures de cette actualité écrasante.
Peut-être pas à ce point-là, parce Charline, que... mais on va faire le maximum,
voilà,
je vous promets.
Ça tombe bien parce que j'avais entamé une phrase et je n'avais pas de chute. En tout cas, voilà. La légèreté, mais le mordant, toujours le mordant.
D'accord,
attention.
Allons-y.
Allez,
faisons
c'est
ça.
Parti. Allez, bon programme.
Je vais vraiment faire votre premier tir de baignade dans la Seine. Est-ce que vous allez vraiment le faire?
Mais la Seine et la Marne sont baignables. Je ne vais pas vous donner la date.
Ah, si.
Mais on verra, il y a plein de sites. Mais j'ai pas l'habitude de plaisanter sur ces choses-là.
Le journal des bonnes nouvelles.
Allez, c'est pas ridicule, elle est vachement bonne.
Ah, il y a une bête ! Il y a une bête ! Attends-moi, il y a une bête !
Et on commence avec la principale bonne nouvelle de cette édition.
La mère d'Avallon a été mise en examen après la découverte à son domicile de 70 kilos de cannabis et d'un kilo de cocaïne.
Et Pierre Palmade a été fait citoyen d'honneur de la ville.
Et Frédéric Becbédé est nommé premier adjoint.
Non, c'est vrai ça? Non, n'importe quoi.
Bah attendez, quand on sait qu'Ardisson est décoré de la Légion d'honneur...
Ah oui, autant pour moi, c'est possible.
Ouais, attends, évidemment.
Ah, je vois qu'Emeric est déjà en partance pour Avallon.
Posez ce manteau. On va avoir besoin de vous en fin de journal, Emeric.
Oui. Allez, on commence avec la politique, Charlie.
Oui, afin de redynamiser sa campagne, la tête de liste écolo Marie Toussaint fait entrer sur sa liste aux européennes Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère.
Oh, les tarés! Les tarés! Mais c'est fou! Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle soit trop dynamisée, la campagne, là, Charlie?
Peut-être. Mais vous imaginez s'ils prennent après Antoine Wächter, Dominique Voynet en plus?
Aïe, le dynamisme, il serait total, Charline. C'est comme un sénateur à un concours de twerk, pareil, ouais, au même niveau de dynamisme.
Et puis, lors d'un débat pour les élections européennes, la tête de liste Renaissance, Valérie Hayé, a clashé.
Alors, attendez, non, on a dit qu'on arrêtait d'inventer des noms, parce que les gens s'en rendent compte et on passe pour des cons.
Non, mais c'est la tête de liste Renaissance aux européennes. Hein,
voilà, d'accord, alors on fait comme si.
Écoutez, en tout cas, elle a clashé le candidat du Parti Socialiste.
Arrêtons. Mais les gens s'en rendent compte, on n'invente pas des partis politiques non plus.
Mais c'est Raphaël Glucksmann, c'est l'espoir de la gauche.
Oh là là, Charlie, on n'avait pas dit qu'on arrêtait la drogue. Vous voulez qu'on fasse la prochaine émission à Avallon, quoi?
Bon, on enchaîne alors.
Bon, enchaînons. Allez.
Vous êtes sûr que vous ne voulez pas en savoir plus sur le clash Valérie Ayer-Raphaël Glucksmann?
Charlie, je crois que je préférerais manger des clous avec Éric Nolot.
Bon,
vous voyez, le niveau où j'en suis là.
Bon, on passe à la suite alors.
Voilà.
Gabriel Attal a déclaré Je ne veux pas d'un pays. Marrant ce que j'ai dit. Gabriel Attal a déclaré.
Et c'est déjà marrant.
Et il y a eu un rire dans cette salle. Peut-être chez vous.
Ouais. Peut-être c'est Gabriel Attal qui est là, justement.
Peut-être vous chez vous, vous êtes plié en deux dans votre salon, rien qu'à Gabriel Attal. C'est effrayant. Alors, il a dit Je ne veux pas d'un pays où les influenceurs remplacent les grands auteurs.
Ah, et je rappelle la liste des grands auteurs plébiscités par le gouvernement. Il y a bien sûr Jean-Pierre Medef, Hervé Moulaga et Patrick McKinsey.
Et puis Emmanuel Macron s'est rendu jeudi à Bergerac pour lancer la construction d'une usine de poudre.
Oui, Pierre Palmade s'est immédiatement rendu sur place, suivi de Frédéric Becbédé.
Non, attendez, c'est de la poudre explosive.
Ah, bon, ben, Émeric, posez votre manteau, là, c'est pénible, là. Restez avec nous. Allez, le Rassemblement National souhaite que d'ici un an, tous ses cadres et élus sachent utiliser les intelligences artificielles.
Ah, ouais. Ça, c'est une excellente nouvelle, ça. Ça veut dire qu'ils vont se former à ChatGPT.
Oui, mais c'est leur version à eux, c'est ChatGPT1.
Ah. Au Japon, des chercheurs de l'université de Nagoya ont trouvé comment apaiser sa colère. Ça consisterait à se réunir une fois par an dans un sanctuaire et de se débarrasser de toutes les peines et les colères en les exprimant.
Ah ben ça existe déjà en France, ça s'appelle l'heure des pros sur CNews. C'est nous qui avons découvert ça.
Oh là là, dites donc.
Ouais, c'est nous ça.
Non bah attendez, parce que ce serait d'utilité publique, après ça va pas du tout. Alors, une étude publiée lundi dernier dans la revue Nature Human Behavior est venue confirmer le fait que les câlins sont bons pour la santé.
Oui, c'est une étude faite par la Gérard Miller Academy, rappelons-le.
Maintenant, il est temps de retrouver notre spécialiste, Émeric Lompré. Alors, Émeric, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors, Charline, au début, c'est vrai que je voulais aller interroger la maire d'Avallon.
Non, Émeric, vous vouliez nous parler d'un sujet important.
Oui, Charline, c'est la guerre.
Oui, partout. Et puis même Emmanuel Macron, il dit que nous sommes en guerre, en économie de guerre. Il dit, vous allez nous parler de ça, c'est ça?
Non, Charline, moi, je vais aller faire la guerre.
Wow.
Vous, Aymeric, mais où à Gaza, dans le Donbass?
Non, Charline, ouais. Non, je vais aller faire la guerre contre les pointes sèches et les cheveux cassants, parce que je les vaux bien, Charline.
Quoi?
Eh ben, Macron, il a dit il faut faire la guerre, mais il n'a pas précisé laquelle. Aïe!
Ah putain! Voilà, vous avez fait un mouvement de tête comme ça pour remettre votre mèche,
oui.
Et voilà.
Oui, je crois que je me suis blessé, Charline.
Ouais,
je me suis blessé. Je vais mourir. Ne m'attendez pas. Laissez-moi. Dites à ma femme que.
Vous n'avez pas de femme.
Trouvez-moi une femme et dites-lui que.
Non, stop.
Dites-lui que je pars à Avalon.
Stop! Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera le journal de la rédaction à 19h. Pour l'instant, il est 18h26. Et ça, je le vois car j'ai une horloge en face de moi, parfaitement positionnée, avec rien devant, et je peux donner la bonne heure. Car nous sommes en direct. Et c'est le moment même de... Et je peux même vous dire qu'il sera 18h27 dans 10 secondes.
On a bien fait de bouger la bite.
C'est ça. Alors,
on va voir la rêve de la semaine dernière.
Ouais, voilà. C'est ça. Écoutez, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a... Ça ressemble à une bite. Et il y a une petite lumière rouge au-dessus qui ressemble clairement à un gland.
On est en direct, hein, je rappelle, Charline. Hein,
ah, c'est vrai. Et c'est pour m'indiquer qu'on est à l'antenne. Oui. Oh, putain, on est à l'antenne.
Non, parce que vous disiez bite, gland, ça parlait prépuce et tout. Moi, j'ai déjà eu des emmerdes avec ça, donc je préfère peut-être plus qu'on enchaîne.
Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et c'est là qu'il va. C'est là que nous allons parler littérature.
Ah voilà, oui.
C'est un petit peu la douche.
Ah, c'est à moi.
Un petit peu la douche écossaise, cette émission. Et là, on a le nouveau Areski Sugar qui dit: mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère? Non, Juliette, c'est à vous. J'ai un bon lancement.
Moi, je rebondis sur les glands.
Attendez, non, ne rebondissez sur rien du tout. Un fait de société a guidé votre choix d'un classique de la littérature. L'image des enfants sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une loi récente qui tente de garantir le respect du droit à l'image des enfants par leurs parents sur les réseaux. Les parents influenceurs sont principalement concernés. Et à l'époque de l'écrivain Henry James, on est à la fin du 19e, point d'internet, mais ça ne l'empêchait pas de s'interroger sur l'instrumentalisation que certains parents pouvaient faire de leurs enfants. Et vous nous parlez de ce roman d'Henry James qui s'intitule « Ce que savait Maisie ».
Parce que la littérature des enfants et des parents, elle en est vraiment gavée. Alors, il y a des parents aimants, comme chez Marcel Pagnol ou Cormac McCarthy, dans un registre plus dur. Il y a des parents monstrueux, comme dans Vipère au Poing, ou plus basiquement, les parents du Petit Poucet. Et puis, il y a une autre catégorie de géniteurs, ceux qui s'en foutent de leurs enfants. C'est pas la catégorie la plus courue. Et à l'époque de la publication de ce roman, il est encore moins commun d'avoir des parents personnages de la sorte et de choisir de mettre la focale sur l'enfant, qui est l'objet de cette souveraine indifférence. Donc la focale, dans ce bouquin, elle est placée sur une petite fille qui s'appelle Maisie et sur la conscience que Maisie a de cette situation. Parce qu'aucun enfant n'admet aisément ne pas être aimé de ses parents. Et puis les parents, ils s'en vantent pas, bien sûr. Hein, ils prétendent toujours le contraire. C'est compliqué en société de dire « Bonjour, je m'appelle Chantal et je me fous de ma progéniture. » Sauf que les enfants, ils ont toujours un super pouvoir, celui de déceler les sous-entendus. Ainsi, Maisie sait que ses parents ont divorcé parce qu'ils ne pouvaient plus se voir, y compris en peinture. Elle sait qu'elle vit 6 mois chez l'un, puis 6 mois chez l'autre. Elle sait que l'un et l'autre se sont écharpés au sujet de cette garde. Et elle commence à comprendre qu'ils vont aussi s'écharper pour ne pas honorer la dite garde. Bref. Ce que Maisie sait, c'est pas gay. Et ce que petit à petit elle va comprendre, ça n'est pas ce qu'on lui dit, c'est tout le reste. Le non formulé, le relief que fait l'absence, les silences. Ce que Maisie sait, elle évite d'ailleurs de trop le faire savoir parce qu'elle a vite compris que les adultes sont rarement fans de la vérité, enfin de la réalité, spécifiquement quand ça les concerne eux. Henry James écrit « Maisie n'avait jamais été en sécurité qu'en se faisant passer pour une imbécile ». Alors Maisie s'adapte. Elle passe pour une imbécile et elle s'adapte comme elle peut au mouvement des grandes personnes. Ainsi, on lui file une gouvernante, plutôt gentille, très jeune, très jolie. Tiens, papa en fait sa seconde femme. Maman disparaît pendant des mois sans donner de nouvelles et quand elle revient, tiens, Maisie a un beau-père. Il est plutôt très chouette le beau-père avec Maisie, assez pour que sa mère s'en offusque et dise à Maisie « Il vous a éloigné de moi ». Il vous a dressé contre moi. Votre affreuse petite âme en a été empoisonnée. Tiens, j'ai une affreuse petite âme empoisonnée. Et nous, lectrices, lecteurs, en assistant au plus près, étape par étape, à la formation de la conscience de Maisie, ballottée entre 4 adultes égocentriques et spécialistes de la fugue, on s'interroge sur la possibilité d'un permis pour être parent. Quoi, c'est fasciste? Bon, ben je retire alors. Merci, bisous, merci.
Et cette histoire de Maisie va être adaptée entre vos oreilles dans une séquence théâtrale. Imaginez le bureau d'un juge aux affaires familiales, où la juge, ce serait Laëlia Véron. En 2024, Maisie et ses parents se retrouvent dans le bureau de la juge. Le père est un homme politique, ce serait Guillaume. La mère est influenceuse beauté et lifestyle, ce sera Aymeric. Bon, disons que c'est le parent d'eux. Et l'objet de leur confrontation, l'enfant Maisie, c'est Juliette.
Salut la commu! Je me rends chez le juge des affaires familiales today!
Maman!
Oh quoi? Hein? Ah oui, je suis avec ma fille, Malaisie, follower!
Maisie, moi je m'appelle Maisie, pas Malaisie.
Maisie, hashtag PSG, hashtag Argentin, hashtag Rebonta, hashtag Remonte.
Hashtag orthophoniste.
Bon, écoutez, ça suffit, pas de téléphone dans mon bureau.
Ok, de toute façon, on peut plus rien faire. Hashtag dictature de la pensée. Hashtag aide-moi, Pascal Pro.
Bon, monsieur et madame Farange, le litige concerne la garde de Maisie lors des vacances d'avril, c'est bien ça?
Tout à fait, et je vous le dis avec honnêteté, madame la juge, je ne vais pas passer par mons et par vos. Le degré de perniciosité de mon ex-femme dépasse l'entendement.
Hein? Tu me pourris la vie! C'est toi qui me pourris la vie aussi avec tes meetings politiques, là. Hashtag Baring, hashtag Public Sénat, hashtag Christophe Barbier.
Ouais, bah avec tes conneries d'influenceuse, j'ai perdu 6% chez 25-40, d'accord?
Hashtag loser.
Ah ouais, et
bon, alors, maman, papa, je crois que madame la juge voudrait pouvoir en placer une.
Oui, bon, pour résumer, vous voulez tous les deux avoir la garde de votre fille pendant les vacances, c'est ça, hein?
Non. Non, c'est pas vraiment ça. C'est maman, elle veut que ce soit papa qui me garde, et papa, il veut que ce soit maman.
Ben oui. Et ouais, mais je pourrais pas te garder, ma petite, parce que moi, je vais à Dubaï pour une marque de shampoing et vous aurez moins 20% avec le code IDA.
Ben, visiblement, ce shampoing, il marche pas bien. T'as les cheveux dégueulasses, sont dégueulasses, ces cheveux.
Qu'est-ce qu'il a, Fido Dido? je vais pas recevoir de leçons capillaires d'un type qui a les cheveux blancs depuis le collège.
Ils sont pas blancs, ils ont des reflets argentés, c'est comme les goélands.
Stop.
Bon, écoutez, expliquez-moi le problème parce que là, je ne comprends vraiment plus rien.
Eh bien, c'est très clair, nous sommes dans une situation inextricable de dualité conflictuelle exacerbée.
Hein?
C'est la merde.
En gros, mon père ne pense qu'à ses électeurs et ma mère à ses followers.
Et toi, ma petite, tu en penses quoi?
Bah, moi j'ai 6 ans en fait, je pense pas trop.
Bon, ça suffit, dossier suivant. Allez, faites entrer la famille Delon. Merci à Juliette Arnaud et sa petite troupe pour cette adaptation du roman d'Henry James, Ce que savait Maisie. C'était le classique de ce grand dimanche soir. Et merci également à Jenna Blanchard et Matteo Yashkin à la vidéo, ainsi qu'à Maxime Bayol et Maxime Rigol à la lumière. Sachez que vous pouvez nous voir en streaming vidéo sur franceinter.fr ou la chaîne YouTube de France Inter. Est-ce que ça vous dirait une histoire de l'oncle Joub?
C'est sympa.
Est-ce qu'il va passer au scanner un tube pour en dégager sa connotation politique? Et le tube du jour, c'est celui-ci. Ça fait du bien d'entendre What a Wonderful World, particulièrement ce soir, j'ai l'impression.
Oui, alors là, c'est la version de Joey Ramone. Okay. Mais en fait, cette chanson, elle est de Louis Armstrong. Elle a été enregistrée en dehors des conventions du jazz à Vegas. On est en 1967 et Louis Armstrong, il est fatigué. Les émeutes de Détroit viennent de faire 43 morts, destruction d'environ 2000 édifices, 5 jours d'insurrection. Un an après la sortie de cette chanson 68, l'assassinat de Martin Luther King. Bon, c'est pas vraiment la joie et cette chanson, elle paraît un peu bizarre à ce moment-là. Et le vieux jazzman a connu tous les aspects de la ségrégation. Il a été aussi mis au banc parfois de sa communauté, accusé de rouler pour l'autre camp. Et là, il en a marre. Il va bientôt mourir, il prône la paix. Quand je vous parle de révolution, de baston tout le temps, là c'est une chanson de paix. Et qui peut paraître un peu naïve. J'aperçois des arbres verts, des roses rouges également, je les vois s'épanouir pour toi et moi. C'est parce que en fait, il est peut-être temps de danser sur un pied d'égalité. Et puis ce monde merveilleux, en fait, chez Armstrong, c'est aussi ce que les générations futures vont en faire. Donc il dit, j'entends des bébés pleurer, je les vois grandir, ils apprendront bien plus que je n'en saurai jamais. Ben, le ton est donné. Et cette chanson va être un bide absolu aux USA au moment de sa sortie. Elle va d'abord marcher en Europe. Et Joey Ramone, sur son dernier album, ce qu'on appelle un album posthume, c'est qu'il est déjà mort et qu'on le saura après pour faire un peu de pognon, donc donne une autre signification à ce Wonderful World. En intro, il repique l'intro de Pretty Bacon des Sex Pistols et hop, c'est parti. C'est un peu comme pour dire qu'on n'est pas fâché, en fait, de quitter cette terre. Une chanson de paix devient une chanson de deuil. Ciao et sans regret, c'est ça l'humour punk et ça peut faire du bien. Allez, au revoir François.
Chronique de Djoubaka, que vous pouvez réécouter en podcast si vous êtes arrivé au moment du disque. Il nous en a dégagé le contexte et la connotation politique, puisqu'il prépare une playlist politique depuis le début de la saison, mon cher Djoub. Et là, je pense qu'on a bien, bien chauffé la radio pour accueillir celui qu'on va faire rebondir.
Ah oui.
C'est le moment de faire rebondir un jeune humoriste, puisque c'est le moment du tremplin. Et je vous propose d'accueillir sur scène Ray Mendes. Ray nous propose un stand-up radio de 3 minutes, au-delà desquelles, pour l'aider à calibrer, il entendra tout le monde ceci. Voilà. En attendant, kiffe bien, cher Ray. L'antenne de France Inter est à toi.
Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez bien?
Oui!
Magnifique. Je suis content d'être là. Mais avant de commencer, pour savoir où j'ai mis les pieds, à chaque fois, j'ai une petite question. Les blancs. Non, le prenez pas mal. Mais dans vos rêves, il y a des noirs. Et là, j'aime bien, hein, parce qu'il y en a, ils cherchent. Je posais la question que pour ça, juste voir des gens faire. On me l'a jamais posé cette question. Dans nos rêves aussi, maintenant. Je veux bien être sur France Inter, mais là, ça va trop loin. Mais vous inquiétez pas, je sais où j'ai mis les pieds, parce que mon ami Jamil, il m'a dit. Ray Mendes, faut que tu viennes sur France Inter, man. T'inquiète, c'est des blancs cool.
La vie de ma mère m'a dit ça.
Et c'est vrai que vous êtes des blancs cool. Vous me faites penser à ma classe d'STG. T'as des noirs, des arabes, des blancs, tous unis vers un avenir incertain.
Non, j'aime bien, j'aime bien. Là, on a des bons blancs où le fouteur de merde de la classe, il s'appelle Guillaume. Ça me rappelle mes belles années. Ah, vous me faites plaisir, c'est une émission qui me fait pas mal au ventre, c'est très rare maintenant de tomber sur une émission où il n'y a pas de racisme, pas de sexisme, pas d'islamophobe. Donc là, je suis un peu en terrain conquis. Et c'est pas mon type de blague. D'habitude, je me bats contre le public. Non, c'est des bons blancs, on a qui d'autre autour de la table. Émeric, j'aime bien ça. Ça, c'est les blancs qu'on appelle jackass. Là, j'ai grandi avec des blancs comme eux. Ils sont bien. Ils n'ont pas peur des noirs et des arabes. Ils ont grandi avec un père alcoolique. Pas peur de toi. Non. Mais j'aime bien cette émission parce que ça traite de l'actualité. Moi, j'aime bien faire ça. Et je trouve que l'actualité, elle est un peu anxiogène. Mais je ne vais pas niquer l'ambiance. Moi, je n'ai jamais été écolo ou quoi. Peut-être qu'il y en a dans la salle. Mais on a tous besoin d'un déclic. Moi, ça a changé le jour où je suis sorti de chez moi. J'arrive sur le parking. Là, je vois toutes les voitures, elles sont oranges. Tout est recouvert d'une matière orange. Là, je bug. Je dis, c'est quoi ce bordel? Et là, il y a une voisine, elle débarque de nulle part. Hein. Elle me dit, c'est le sable du Sahara. Ouais, j'étais là, le sable du Sahara? Dans le 9-3. Je me dis, elle a fumé quoi, celle-là? Je monte dans ma voiture, je mets le contact, et là, j'entends à la radio que c'est vraiment le sable du Sahara. Et vous savez ce qui m'a choqué? C'est même pas l'information, hein. C'est la manière dont elle me l'a dit. Elle m'a dit ça comme si ça arrivait tous les 15 jours. Et c'est là que je vois que ces 5 dernières années de Covid, là, elles nous ont bousé le cerveau, il n'y a plus rien qui nous choque. Je sais pas ce qu'il y avait dans le vaccin, mais on est devenu insensible depuis. Même vous, vous me regardez de genre, et alors? Non, moi je suis en panique, parce qu'après ça, j'ai entendu qu'on avait 3 ans pour sauver la planète. Ensuite, il y a le délire, les enfants, ils pouvaient crever en mangeant une pizza ou un Kinder. Après, on a la variole du singe, des incendies de partout. Dieudonné, il s'excuse. Gad Elmaleh, il est chrétien. Le ministre de la Justice, il s'est fait juger. On a dit, ok, ça passe, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah merde, je dois conclure. Ok, bah, en tout cas, avec toute cette ambiance un peu anxiogène, je tenais à vous remercier de lutter, parce que là, le racisme, il est en train de vous draguer. Non, je vous jure, ils ont des plans très... Donc là, je vois qu'on a une salle remplie, qui sont venus voir des Noirs et des Arabes, et ça me rassure. Donc, tenez le coup. Merci de m'avoir écouté, je m'appelle Ramon Bosch.
Il s'appelle Ray Mendez. Viens Ray, viens t'asseoir avec nous. Quelle aisance. Bravo. Ray, on peut te voir, et on a très envie de te voir, au Point Virgule tous les jeudis avec ton spectacle La Source. Et tu as un compte Instagram, Ray Mendez, M-E-N-D-E-S. Voilà. Et tu as un nom un peu espagnol?
Non, ouais. C'est portugais.
C'est portugais, ok.
Ouais, parce qu'ils ont fait des choses dans...
Oui.
Tu veux vraiment qu'on aille là-dessus?
Je vois bien, non. Parce que je vois bien.
À toi de voir.
On n'ira pas tout de suite à la source, on ira la voir. C'est voilà. Le titre de ton spectacle, point virgule. Reste avec nous, Ray, si tu veux bien. Hein, comme ça, ça nous fera un petit peu d'équilibre aussi au niveau...
Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Charline. Je vous laisse vraiment dans cette phrase.
On n'était pas assez... Il manquait un noir. Eh bien, il est là.
C'est pour ça que Jamil, tu voulais que je vienne.
Allez, c'est toujours là, c'est un moment d'émotion pour moi. C'est toujours un moment d'émotion. Pour vous, ça va être beaucoup de réflexion. Moi, la réflexion va être peut-être un petit peu plus dure parce que c'est l'émotion. C'est la linguistique, c'est la sémantique, c'est la stylistique, c'est tous les trucs qui me font des trucs dans le bas du dos. J'adore ça, c'est ma passion. Et c'est avec Laëlia Véron. Merci, Charline. Alors. Aujourd'hui, je vais vous parler, Charline, de pragmatique et même de performatique.
Oh là 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 là.
Eh oui, je sais. Performatique, ça peut nous faire penser à performance, performer, au fait de faire, de mener une action à bien. Et on va se demander dans cette chronique quand est-ce que le langage peut jouer ce rôle et comment. Parce que vous savez, d'habitude, on différencie les actes et les paroles, parole, parole. C'est une opposition classique. Le langage serait du côté du symbolique et les actions du côté du concret, du réel. Mais il y a des moments où dire c'est faire, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'un philosophe du langage, Austin. Il y a même des moments où on ne peut faire qu'en disant. Par exemple, comment promettre en disant « je promets, je te le promets ». Après, si on tient sa promesse ou non, c'est une autre question. Hein, Aymeric? Désolée, c'était une petite...
Ça s'est mal passé hier soir entre vous deux, qu'est-ce qui se passe?
Non, on passe à autre chose.
On a besoin quelquefois de mots pour que l'action soit accomplie, que ce soit dans la vie privée, hein, je te demande pardon, je te remercie, ou dans des rituels plus publics, le serment, le baptême, le mariage, qui passent par des mots. Ce qui accomplit par exemple l'événement du mariage, c'est la profération des mots, je vous déclare unie par les liens du mariage. Alors, cette notion de performatif a été critiquée, notamment par le sociologue Bourdieu, qui a rappelé que ces paroles ne sont pas efficaces toutes seules, qu'elles dépendent des institutions qui décident quelle parole, dans quel contexte, est légitime pour agir ou non. Par exemple, si en soirée, vous avez bu un coup de trop et que vous décidez de marier la cigarette avec la bouteille de bière et que vous pouvez brailler ah, « je vous déclare unie par les liens du mariage », est-ce que vous faites vraiment quelque chose ? Est-ce que l'énoncé peut être performatif dans l'économie seule du discours hors du contexte social ? Bon, ça, c'est contestable. Mais donc, c'est compliqué de savoir à quel point les conditions extérieures sont nécessaires. Par exemple, au hasard, vraiment au hasard, Charline, promis, aïe. Si Darmanin disait « je démissionne oui. », promis Charlina, quand Poutou sera au pouvoir, je prendrai comme exemple la démission de Poutou pour équilibrer, parce que je sais que c'est important.
Merci. Bon,
si Darmanin dit qu'il démissionne, est-ce que ça suffit à que sa démission soit effective ? Quelquefois, les ministres vont nous dire, par exemple Sylvie Retailleau, lors de la loi immigration, « Ah ben non, moi je voulais vraiment m'opposer à cette politique, mais ma démission n'a pas été acceptée par le président, donc je reste en place et j'applique finalement cette politique. » Et là, on peut se poser la question, « Mais t'as vraiment dit que tu démissionnais ?» S'il ne suffit pas de dire « je démissionne pour que ce soit effectif », qu'est-ce qu'il a fait en plus ? Aurélien Rousseau, lui qui avait vraiment démissionné, il a pissé sur la moquette ? Enfin, ou est-ce qu'il a simplement pris les mots au sérieux ? Si on reprend l'exemple de la promesse, vous savez, quelquefois quand on jure, on a besoin d'insister sur les mots, d'en rajouter « croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer ». Ou quand on fait jurer l'autre, on prend des garanties sur ce qui lui est précieux. Tu le promets ? Sur ton honneur ? Sur la tête de tes enfants ? Sur le coffre de Benalla ? Enfin, ça... Et ça peut marcher, hein. Il y a des gens qui ne promettront pas un mensonge de peur d'être punis, que la contrepartie promise par ces mots se réalise. Et là, on dépasse le performatif pour aller vers le magique, et on peut quelquefois regretter que celles et ceux qui nous promettent beaucoup n'ont plus trop l'air de croire en la magie.
Là, il y a Véron et sa chronique linguistique, que vous pouvez podcaster aussi, bien sûr. Merci, chère Laëlia. Et en voici un qui a été l'un des tout premiers tremplins. Notez bien Ray, vous allez voir ça. Ce soir, il passe de l'autre côté de la chronique de la force. C'est Areski Sugar, vous proposez un partage d'expérience ce soir. C'est-à-dire que vous avez découvert le monde des meetings écolo Areski Sugar.
Merci. Merci, oui, j'ai été invité par une amie d'obédience France Inter, quoi, hein, bobo, gaucho, enfin, qui est habillé en, comme vous, en quechua les dimanches, quoi. Et elle me dit, oui, non, mais tu vas voir, c'est une AMAP, une asso d'agriculture paysanne, c'est le futur de l'écologie. Je suis là, ouais, ok, il y aura du pâté. Ah bah voilà, bah, c'est ça que j'allais dire dès le début, oui. Et arrivé là-bas, alors ça parle écologie, moi je suis ouvert, j'ai envie d'apprendre, je suis abonné à Sciences et Vie du Nord. Et je vois que en fait, le meeting consiste en juste t'expliquer toutes les différentes façons de mourir dans le futur. Parce qu'il n'y a pas que la banquise, il y a aussi le permafrost, les pluies acides. Voilà, on m'explique tout ça pendant que je mange des blinis. Programme excellent pour l'instant. Et là, par contre, là, j'entends quelqu'un qui commence à parler de son éco-anxiété. Et là, c'est non pour moi. Non, non, mais l'écologie, c'est important, mais ne l'utilisez pas pour excuser votre consommation de Xanax. D'accord ? Non, mais parce que les éco-anxieux... Pour moi, c'est juste que vos psys sont nuls à chier, en fait. Et du coup, ils se concentrent pas sur vos vrais problèmes. T'imagines, genre, le psy de Jackie Kennedy qui lui dit... Et à part ça, Madame Kennedy, je veux dire, il faisait chaud à Dallas. C'est surtout pour ça, non ? C'est le réchauffement climatique qui vous gêne, ouais. C'est que je vais vous dire, en fait, les éco-anxieux ou les gens qui se disent éco-anxieux là, ce soir, vous êtes des débutants en anxiété. Pardon, mais genre, oh, la fin du monde, ça me stresse. Non, mais moi, la boulangère, quand elle me dit bonjour, ça me stresse, ça. Donc, tu vois. Bon, bien sûr, ça, j'ai rien dit dans le meeting, hein, parce que je respecte les traumas de tout le monde, même quand ils sont faux. Et là, il m'invite à une manif la semaine prochaine. Et en fait, pardon de jouer la carte immigrée, mais je vais la poser immédiatement, contre ou non. Et parce que je ne sais pas si vous connaissez la relation qu'il y a entre la police nationale française et les manifestants algériens. Non, mais c'est un peu comme une relation amoureuse de Bertrand Cantat, quoi. Donc, bah, Et moi, bizarrement, ça ne m'intéresse pas trop de goûter l'eau de la Seine voilà, avant les kayakistes des JO. Voilà. Et puis je leur dis, mais au-delà de ça, je veux dire, les manifs, quand elles sont pas interdites, elles servent à rien. En fait, Chipolata vegan à République, ça gêne ni les dividendes, ni les conseils d'administration de Total, ArcelorMittal ou Lafarge. Ils me disent, oui, mais on fait quoi alors? C'est pas mon taf, c'est ton taf en tant que militant. Et je dis, moi, j'ai que des idées qui sont ou débiles ou illégales. Ou les deux. Et clairement, je ne peux pas leur proposer des trucs comme, je sais pas, repérer les 3 sièges sociaux de ces entreprises pour mettre du laxatif dans leur cantine, par exemple. Balancer des graines tout autour de leurs immeubles pour que les pigeons viennent chier sur leurs vitres. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas non plus dire, tiens, déverser du fumier devant l'Assemblée Générale de Total qui a lieu le vendredi 24 mai à 14h à Courtoupole, la Défense. Non, soyez pas stupides. Je ne peux pas dire ça, c'est illégal. Et ne m'envoyez pas non plus Aurore Berger qui va me dire que je fais de l'incitation à la haine. J'ai déjà un bébé qui crie à la maison pour rien. Voilà, et moi non plus, en fait, je veux pas de problème et je n'ai pas le temps d'écrire un livre en garde à vue. Non mais attention, c'est sérieux, là, je ne veux pas... Encore une fois, si vous faites des trucs illégaux, je suis contre, d'accord? Voilà, et surtout, si vous faites des trucs illégaux, voilà, ne dites pas que c'est moi qui vous ai donné des idées, voilà, dites c'est Walidia. Voilà, merci à tous.
C'était... Areski Sugar, merci mon cher Areski pour cette première chronique de Grand Dimanche Soir.
Charline, je vous entends, mais vous me semblez loin.
Oh, pas tant, je suis derrière vous pour dire aux auditeurs, je suis perchée en haut du studio parce qu'il y a une estrade. Je pense que ça s'entend à la radio d'ailleurs, ça c'est la magie du son que je suis en hauteur. J'invite les chroniqueurs à rejoindre le public pour former une grande assemblée citoyenne que j'ai l'honneur de présider. Le ministère de la Culture a annoncé l'ampleur des coupes budgétaires, 204 millions d'économies qui vont toucher les grands établissements culturels comme l'Opéra de Paris, Chaillot, la Comédie Française. Les professionnels du secteur craignent la disparition d'environ la moitié des spectacles pour l'an prochain.
Non mais je me demandais, les questions au gouvernement, elles sont maintenues?
Oui, mais quel rapport?
Ah ben ça, c'est mon spectacle préféré, moi, et c'est accessible au grand public.
C'est vrai. Non, mais pourquoi payer une place pour aller voir l'Avare quand on peut écouter gratuitement un discours de Bruno Le Maire à la maison?
Oui, je vois. On a besoin de fiction aussi, pas que de la réalité.
Ah, mais parce que Bruno Le Maire, il fait pas de la fiction?
Oui, alors je vois ce que vous voulez dire.
Je vois.
Mais la question, c'est le risque d'avoir moitié moins de spectacles vivants dès l'an prochain.
Et si au lieu de diviser par deux le nombre de pièces de théâtre, on divisait par deux la durée des pièces de théâtre?
Attendez, vous voulez quand même pas que les pièces de théâtre, elles s'arrêtent en plein milieu?
Demandez aux gens qui vont au Festival d'Avignon. Il y a des pièces qui durent 10 heures, des spectateurs meurent pendant la séance.
Non mais arrêtez de plaisanter là, c'est sérieux, la culture elle manque déjà de moyens, on va encore lui retirer des budgets.
Alors allez-y développer.
Ouais. Mais oui, moi la dernière fois que je suis allée au théâtre, ça se voyait, rien qu'au costume, tous les acteurs étaient en guenilles et puis les décors, ils devaient dater du 19e siècle.
Vous étiez allé voir quoi?
Les Misérables.
Vous le faites exprès.
Non mais sinon, on pourrait demander aux acteurs de jouer, mais bénévolement.
Non, comédien, c'est un métier.
Oui, mais c'est un métier passion. Moi, ma passion, vous voyez, c'est le gainage. Bon. Non mais quand les gens, ils viennent me voir faire du gainage, je fais pas payer.
Quand il y a des gens qui viennent vous voir en gainage.
Non, mais, mais sinon, je les ferais pas payer, c'est sûr ça.
Ou alors, il faudrait lancer les théâtres du cœur.
Ah oui, on pourrait même faire une chanson.
Ouais.
3, 4, aujourd'hui... On n'a plus le droit d'aller au musée, à l'opéra. C'est fini, les aides de l'État. Quand je me cuise...
Stop, merci. On a l'idée. On s'est
non,
fait
mais
l'idée.
Attendez. Ouais. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'idée.
Ouais.
Et on demanderait à des artistes de faire des sketchs et des chansons sur scène pour récolter de l'argent.
Ah oui. Donc ce que vous proposez, c'est qu'on alimente le budget de la culture en faisant des spectacles.
Ouais, voilà.
C'est brillant, hein, je note. Vraiment, je me demande, vous allez chercher tout ça. Et c'est pour ça qu'on va aller encore plus loin et que je donne la parole à Jamil Le Schlag.
Merci, Charline. Merci beaucoup. Ouais, les gars, c'est incroyable.
En ce moment, ça va pas fort dans la culture française. Bah déjà, j'existe. C'est un indicateur de déclin. Guillaume Meurice est considéré comme un écrivain. Et pour finir, ils ont nommé aux Molières dans la catégorie humour Sophia Aram. Non, mais je rigole, je rigole. Enfin, je rigole, hein, pas tant que ça non plus. Mais plus sérieusement, l'État prévoit 200 millions de coupes budgétaires sur la culture. Oh non, mon intermittence ! Putain, va falloir que je trouve un vrai métier, bordel. Perso, je suis sur le service public. Déjà qu'on n'était pas payé une fortune, mais là, on va être payé en roupies ou quoi ? Mais pas de panique pour la culture. L'État compte sur le mécénat privé pour prendre le relais. Comme par exemple François Pinault, qui expose à la Bourse du Commerce sa collection privée d'art contemporain. Ah, excuse-nous, Andy Warhol. Moi, naïvement, je pensais que les œuvres d'art, c'était dans les musées et que les riches, chez eux, ils avaient au mieux un Thermomix, un cookie haut, des micro-ondes, tu sais, des produits de luxe. Mais moi, je critique. Mais lui, en tout cas, François, il est hyper généreux. Il pourrait très bien garder sa collection pour lui. Mais non, François, il expose son beau goût au peuple de France. Tenez pour vous, bande de gueux. Bon, après, c'est 14 euros l'entrée, hein, François, tu sais. Bah, c'est plus fort que lui. Il essaie toujours de gratter un petit billet. Wallah, on dirait moi. Car on a pas mal de points communs avec François. Moi aussi, j'ai des œuvres d'art à la baraque. Enfin, non, j'en ai qu'une. Dans mon salon, au-dessus de ma télé Grinding, j'ai un cadre géant du pont de Brooklyn en noir et blanc, tu sais. Avec les taxis jaunes, j'ai chiné ça à Ikea Franconville. Non, mais... Hey, j'ai eu du flair sur ce coup-là. La cote va monter, la cote va monter. Alors... En tout cas, c'est quand même vachement sympa de la part des milliardaires de faire des fondations pour l'art. Et ils connaissent bien l'art, ces gens. L'art d'esquiver les impôts. Wouh ! Van marxiste ! Mais attention, ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez pas comprendre, vous, là. Vous, c'est le contraire. Vous êtes pauvre et vous payez des impôts. Mais putain, vous n'avez rien compris à ce game. Perso, j'en ai marre de la Hesse. Alors, pour m'en sortir, j'ai monté ma propre boîte. Appelle-moi Jabil Gates. Moi aussi, j'aimerais bien défiscaliser. Mais comme dirait mon comptable, t'es même pas solvable. Mais... vous pouvez m'aider à lancer mon entreprise du rire en prenant vos places pour la dernière de mon spectacle samedi 15 juin au Théâtre de la Madeleine. Auto-promo, auto-promo. Merci de m'avoir écouté, les amis. Merci,
merci, Jamil Lechlag. Alors, il y a une pratique qui se répand beaucoup en ce moment dans un autre secteur culturel, c'est l'achat de livres d'occasion qui menace donc le secteur de l'édition. Oui, alors attendez, le micro de madame qui voudrait intervenir. Oui, voilà, reprenez madame, vous disiez.
Que je vous arrête tout de suite parce que personne ne fait ça.
Ah si, si, je vous assure, c'est très en vogue en ce moment.
Non, écoutez, alors ça m'étonnerait parce que déjà, ça n'arrive quasiment jamais que plusieurs personnes veuillent lire le même livre.
Mais vous plaisantez ou quoi? Parfois, il y a des centaines de milliers, de millions de gens qui lisent le même bouquin.
Mais n'importe quoi. Hein? Allez, parfois, il y a 4 ou 5 lecteurs quand le livre a du succès.
Ah, non, vous êtes très mal renseigné. Hein.
Bah alors là, excusez-moi, mais vous tombez mal. Je suis une professionnelle du secteur, je suis éditrice. Alors, vous la ramenez moi, là?
Ah ouais? Et vous éditez qui?
Marlène Schiappa.
Voilà. Allez, on enchaîne hein, là-dessus. Ces coupes budgétaires ont été décidées à Bercy, apparemment, sans que le ministère de la Culture ait été consulté. Est-ce que vous pensez que Rachida Dati n'a pas assez de pouvoir?
Ah si, 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 elle a assez de pouvoir, je trouve.
Ah bon, vous trouvez?
Ouais.
Ouais.
Elle est capable de transformer des chiens en kebab.
C'est vrai. C'est vrai. Dans un monde idéal, est-ce qu'il faudrait envisager de sacraliser le budget de la culture?
Pas mieux.
Pas mieux quoi?
Que votre avis?
Ben, c'est pas mon avis, c'est une question. J'ai mis un point d'interrogation à la fin de ma phrase.
Ouais, ouais, d'accord. Pour faire joli, mais allez-y, redites la phrase sans le point d'interrogation.
Il faut envisager de sacraliser le budget de la culture.
Vous voyez, ça marchera bien comme ça. Faut pas vous embêter avec des points, des machins, des trucs.
Ouais, 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 voilà, je vois bien. Je vais mettre un point final à cette discussion, donc. Et vous soumets la question qui sera votée. Pour ou contre la limitation de durée des spectacles à 1h30 afin de réaliser des économies budgétaires. Suspension de séance, je vous laisse délibérer. On reprend à l'issue du journal d'information de 19h.
Le grand dimanche soir. Inter.
Il est 19h17, la suite du grand dimanche soir. C'est en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Votre retour, Charline Vanhoenacker.
Merci Eric Delvaux. N'hésitez pas à descendre au rez-de-chaussée.
Chiche.
Hein, de cette Maison de la Radio.
Très bien, j'arrive.
Il y a le studio 104. Ben, on vous attend, il y a une place qui se libère pour vous.
À tout de suite.
Et comme ça, ça fera 801 personnes dans le studio 104 pour voter la proposition de loi destinée à adapter la culture aux 204 millions de coupes budgétaires imposées par Bercy. Alors voilà ce qu'on vous propose et qu'on va voter. Pour ou contre la limitation de durée des spectacles à pas plus de 1h30 afin de réaliser des économies budgétaires. Par applaudissement, qui est pour? Ah oui, il y en a un ou deux, voilà, qui n'iront pas voir Walidia qui fait des spectacles de 3 heures. Par applaudissement, qui est contre? Cette proposition est rejetée. Le grand dimanche soir se poursuit jusqu'à 20h à la radio essentiellement, mais aussi si vous le souhaitez en vidéo, en streaming sur la chaîne YouTube de France Inter ou sur franceinter.fr. Et ce soir, c'est avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Laëlia Véron, Areski Sugar, Chewbacca, Jamil Lochlag et Frédéric Fromet. Le duo qui nous vient des Pays-Bas, Donna Blue, nous a promis une reprise en live. Et voici notre invité, qu'on connaît comme chanteur, mais maintenant aussi réalisateur, Abdelmalik.
Le grand dimanche soir, Charline Vanhoenacker.
Bienvenue Abdelmalik.
Merci de me recevoir.
Mais avec joie, vous avez réalisé une série intitulé 9-3 bébés, 8 épisodes de 26 minutes, diffusés à partir de vendredi sur Slash TV. C'est la plateforme de France Télévisions. C'est une série créée et écrite par Walen, qu'on connaît aussi comme chanteuse. Juliette, vous pouvez... il y a des fans.
Eh oui. Elle est dans la salle, d'ailleurs, je pense.
Elle nous écoute, j'espère.
Bien sûr, bien sûr.
Juliette, vous pouvez nous résumer 9-3 bébés?
Eh ben, on rentre dans la série par le personnage d'une toute jeune fille qui s'appelle Leïla et qui, croyant voir son amoureux qui vient d'être assassiné, donc qui vient de mourir, elle croit le voir rentrer dans le théâtre qui est en face de là où elle habite et où elle a jamais été. Elle le poursuit, puisqu'elle a forcément, elle a envie de le voir et elle est en pyjama, elle est en pantoufle et elle arrive et est en train de se jouer une pièce de théâtre. Alors son amoureux, c'est pas son amoureux en fait, elle l'a confondu, ce qui arrive quand quelqu'un nous manque très fort, on le voit de partout. Et la pièce qui se joue, c'est Antigone de Brecht et elle est happée par ce qu'elle voit et elle reste et à partir de là, sa vie va changer, le groupe de jeunes gens qui l'entourent va changer aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est la beauté qui sauve Leïla?
Totalement.
Merci beaucoup. Et passez une bonne soirée. Tout de suite, la météo des plages.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est l'idée de dire que finalement, c'est ça. C'est de voir la beauté en toute chose, mais aussi de la créer, cette beauté, en fait. Et elle se crée dans rapport, précisément au rapport qu'on a avec les autres. Et précisément dans cette idée de dire que. Comment on va faire en sorte de pas être en périphérie de sa propre vie, mais être au centre et faire avancer les choses et faire du lien dans tout ça. Donc voilà. Y a de
parce
ça.
Que c'est quelque chose qui caractérise Leïla et qui est très intéressant, c'est qu'elle pourrait, par exemple, en ayant vu cette pièce, se dire oh là là, je deviendrai bien comédienne. Et c'est absolument pas ça qui lui arrive tout de suite en tête. Son idée, c'est je vais rassembler des gens autour de moi qui ont mon âge, qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire un peu incertains. Certains sont un peu abîmés et on va faire un truc ensemble. On va faire une troupe.
Ouais. Et quand donc mon épouse Walen a écrit ça, en réalité c'est son histoire, c'est mon histoire. C'est souvent quand on parle des quartiers populaires, on parle beaucoup de l'exception. Et l'exception, c'est la délinquance, enfin toutes ces choses-là, c'est l'exception. Et finalement, les gens qui ont une vie, on va dire relativement normale, eh ben ces gens-là, on parle pas d'eux, on les rend invisibles en fait. Et nous, notre idée, c'était de dire que elle et moi, on vient de quartiers populaires. elle de Seine-Saint-Denis et moi de cité à Strasbourg, du Neuf précisément. Et
à l'idée, c'est d'autres pierres, Cronenbourg.
Voilà, voilà, tout ça. Qu'on salue. Qu'on embrasse. Et donc, l'idée, c'était de dire, voilà, nous, comment on a vécu les choses. Et voilà comment les choses se vivent véritablement dans les quartiers populaires. Alors, bien sûr, c'est compliqué, etc., mais il y a des gens exceptionnels comme Leïla.
Quel de vous deux, entre Valène et vous, est entré pour la première fois dans un théâtre en pyjama avec des pantoufles en pilou-pilou, donc?
Non, ni elle, ni moi, mais par contre, on a eu, elle et moi, des rencontres avec des gens qui ressemblent à Brian, le directeur du théâtre.
Qui est incarné par Patrick Bouchité.
Ouais, par le formidable Patrick Bouchité. Des gens, en fait, qui ont permis à la fois le lien générationnel et la transmission. Le fait de dire qu'en termes d'art, il n'y a rien qui naît ex nihilo. L'idée, c'est qu'il y a une tradition et on s'inscrit dans cette tradition-là. Et s'inscrire dans cette tradition, c'est amener du neuf par rapport à la singularité qu'on a, par rapport à ce qu'on est, mais en même temps se connecter à une histoire. Et à l'histoire de l'art, et à l'histoire de la culture, et comment la beauté permet de changer les existences pour le mieux.
Leïla, donc, il va s'agréger tout un tas de jeunes gens autour d'elle qui sont ses amis, et très très vite, elle a toujours plus ou moins écrit, on le comprend, Leïla, mais là, elle se dit qu'elle va écrire du théâtre, et elle dit que c'est une génération qui s'est construite sur le fond de la question identitaire. Donc, avec la question, c'est quoi au fond l'identité? Adèle Malik, c'est quoi au fond l'identité? Et vous avez moins d'une minute.
Oh là là.
L'identité, finalement, c'est lié. Vous avez parlé de la beauté tout à l'heure, mais j'aurais pu dire à l'amour, en fait. C'est lié à l'attachement, ce qui fait nous ce que nous sommes, ce qui fait notre singularité, ce qui fait l'attache à un endroit, à des gens, en fait. Et finalement, on est la somme, et c'est ce que dit Leïla, on est la somme de toutes ces rencontres-là. Mmh. Et c'est ça qui fait notre identité. Mmh. Et c'est ça qu'on doit magnifier, en fait. Et le propos de cette série, c'est de dire ça. Nous autres qui sommes français, françaises, avec nos racines d'ailleurs, on est toujours confronté à ça, alors que l'idée, c'est de dire finalement que être français, européen, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un sexe, c'est vraiment le fait d'adhérer à un être au monde. C'est une philosophie de la vie, c'est un être au monde. C'est tout ça, en fait. Et la série a l'humble ambition de parler de ça simplement avec des gens qui vivent, qui sont dans leur vie au quotidien. Voilà.
À voir sur France TV/ à partir de vendredi, 9-3 bébé, donc la série réalisée par Abdel Malik et créée et écrite par Wallène, qui est disponible donc dès vendredi, c'est ça que j'ai bien dit, il est 19h25 sur France Inter, nous sommes en direct. Qui a eu un jour l'idée de lui confier un micro? Qui surtout s'est dit un jour, en plus du micro, on va lui donner un enregistreur?
C'est vous, Charline, je vous le rappelle quand même.
Voici le moment Meurice. Ouais, ouais,
ouais. Merci beaucoup, les amis. Dans moins de 100 jours, c'est les Jeux Olympiques dans cette belle ville de Hidalgo de Mission City, qu'on appelle aussi Paris. Ou encore, tiens, un clochard qui mange un rat, annonce Aymeric qui prend son petit déjeuner. Les Jeux Olympiques dont la devise est... Devise des Jeux Olympiques? Facile. Le dollar. Parce qu'au début, c'était l'important, c'est de participer. Mais Coca-Cola, ils ont dit, nous, on va plutôt prendre l'oseille, nous. C'est plus l'oseille qui m'intéresse. Alors, ils ont déjà été bien lancés, ces jeux, avec une polémique Aya Nakamura. C'est là qu'on voit que les fachos, ils ont perdu en panache, je trouve. Parce qu'avant, pour les combats, il fallait faire sauter des ponts. Et puis, ils avaient des tatouages avec des aigles et des croix celtiques. Aujourd'hui, tu leur mets une chanteuse noire, paf, PLS. Ça chouine de partout, ça fait des émissions spéciales. Plus besoin de Jean Moulin, aujourd'hui. Adjadja, la patrie reconnaissante. On est donc à moins de 100 jours des premières épreuves officielles, mais les festivités ont déjà commencé avec ce week-end une grande dictée en partenariat avec le Festival du Livre et le Comité Olympique. Je suis allé faire un petit tour. Alors, c'est des gens fans d'orthographe et de JO.
Oui, c'est pour ça que je suis venue, en fait.
Pour les JO?
Parce que c'est dans ce cadre, oui.
Ouais, vous allez suivre à fond, alors?
Exactement.
Quelles épreuves?
La natation.
La natation, est-ce qu'ils vont être dans la Seine?
Il me semble que oui.
Bon, alors, test d'orthographe, comment on écrit les eaux de la Seine sont dégueulasses? Dégueulasses, un L ou deux L?
Un L.
Bonne réponse, c'est vrai que c'était facile, alors que leptospirose, c'est pas facile à écrire, mais c'est la maladie que les athlètes vont choper après l'épreuve. Eh oui, c'est Paris! Oh là là, le Moulin Rouge! Aïe, ça pique quand je fais pipi! Parce que oui, vous le savez, il y a un petit souci sur l'état de l'eau, mais cette dame, elle est confiante, tout ira bien le jour J.
Je pense, d'ici là.
La Seine va être propre?
Je suppose que oui.
Alors ça, c'est du conditionnel, du futur ou du déni?
Je dirais ça.
Oui, c'est une bonne réponse. C'est du déni. C'est vraiment une championne. Déni de base, hein, c'est un mode de conjugaison que l'on retrouve dans la phrase de Raphaël Glucksmann. Je vais créer la surprise. Voilà, c'est du déni. On appelle ça du déni. Mais certains Parisiens attendent les Jeux. Certains ont toute confiance, même ceux qui habitent près de la Seine.
Pour l'instant, ça va, mais je pense que ça sera bien organisé. Non, j'ai pas peur de ce côté-là. Et on va avoir des codes pour entrer, sortir.
Vous allez avoir un QR code, ouais.
Un QR code, exactement.
Alors comment on écrit QR code?
QR, puis après code.
Que des champions, que des champions. Et oui, parce que pendant la cérémonie d'ouverture, il y aura un QR code pour entrer dans la zone. La police a même annoncé qu'elle pourrait intervenir dans les appartements qui donnent directement sur la Seine. Il y aura des drones tous les 200 mètres, en vous souhaitant une bonne année 1984. Ça va, George Orwell, donne des newsman, comme dirait le poète. Allez, les JO.
On a un fond JO, tout ça, on a les mascottes partout déjà.
Ok, là le sport olympique a commencé, c'est le jeté d'étudiants du Crous. Est-ce que vous avez suivi ça?
Non.
Par exemple, les étudiants du Crous se font tège. Comment on écrit tège?
Bah, T-E, accent grave, J.
Oui, alors à ne pas confondre avec « Nous prendrons bien compte des obligations de chaque jeune dans la mesure de nos capacités de relogement » qui s'écrit N-I-Q-U-E-Z-V-O-U-S. Ah, les subtilités de la langue française. Et de l'économie, parce que c'est un événement mondial qui va générer un paquet de pognon, mais qui repose sur des bénévoles, donc des gens pas payés qui vont bosser comme des maboules, l'exact inverse des chroniqueurs de France Inter. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des mouvements sociaux pendant les JO?
Absolument pas, moi je suis très optimiste.
Par exemple, si on dit la CGT va bloquer les Jeux Olympiques, bloquer c'est E ou ER?
La CGT va bloquer ER.
Ah là là, on a affaire à des professionnels, je vous l'ai dit. Courage à la CGT hein, qui va mettre un somme olympique dans les colonnes du Figaro pendant les JO. Puisqu'on parlait de professionnels, je voulais finir par le meilleur d'entre eux, le présentateur de la dictée, un certain Augustin Magic Trapenard, qui était presque prêt.
Bah c'est surtout que j'ai jamais été très très fort en dictée, moi personnellement, même si ma mère était enseignante. Mais bon, on travaille, on a révisé, on est bon.
Alors, comment on écrit, par exemple, dans la phrase « Les billets pour les JO que nous achetâmes coûtent la peau du cul ».
Cul, c'est UL.
Ah bien joué, il a su déjouer le piège cul, qu'on appelle aussi renflement brun dilaté dans le jargon. Et c'est aussi l'endroit d'où est sortie l'idée d'organiser les JO à Paris. Entre les places hors de prix, l'expulsion des SDF, des étudiants boursiers, l'exploitation des bénévoles, le risque d'attentat, les travaux en retard, la pollution, c'est ce qu'on appelle, comme on dictait, un sans faute.
Guillaume Meurice, merci Guillaume, et un salut amical à Augustin Trapenard. Qu'on retrouve dans la grande librairie sur France 5, bien sûr. Abdelmalik est en notre compagnie, lui aussi. Il officie d'une certaine manière grâce à France Télévisions. Sur la plateforme France TV Slash, on peut voir dès vendredi la série 9-3 bébé. Juliette évoquait la question de l'identité. J'ai vu que vous étiez mort de rire rien qu'à l'évocation du fait qu'Aya Nakamura mette les fachos en PLS. Il y a tout un contexte et un décor politique à cette série. Bien sûr, la série, elle commence avec le petit ami de Leïla qui est infiltré chez des identitaires, et puis il en meurt parce que les identitaires, il y a une rixe qui est déclenchée avec des jeunes Français arabes. Ce contexte politique que vous avez choisi, cet affrontement, c'est quelque chose de évidemment très central dans la société aujourd'hui et qu'il fallait aborder.
Ouais, parce que comment dire, on est à un moment particulier de notre histoire collective où on a le sentiment que enfin, il y a des gens qui pensent qu'avoir une pensée extrême, c'est une solution, en fait. C'est assez aberrant, d'une certaine manière, de se dire que en repoussant les autres, en étant dans quelque chose qui n'est pas dans une démarche empathique, qui n'est pas dans une démarche d'intelligence, qui n'est pas dans une démarche de dialogue, etc., ça peut fournir du positif. Mm-hmm. C'est assez aberrant, je trouve. Et donc, on voulait parler de ça. Mais parler de ça en mettant cette complexité-là, cette complexité question de l'identité, cette complexité question en quoi l'art, la culture permet non seulement de transcender sa condition, mais de justement de fortifier cette idée de d'identité collective et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que la pensée extrême, comme ça, en tout cas d'extrême droite, qui aujourd'hui est devenue une option possible, c'est juste incroyable. Enfin, c'est juste aberrant. Mm-hmm. Et ça fait peur aussi parce que finalement, ça nous met en écho par rapport à des choses qu'on a connues dans notre histoire. Et donc, on voulait parler de ça, dire que malheureusement, si on veille pas, les choses recommencent. Et ça se passe de plus en plus subtilement et détendu, parce qu'il y a des gens qui ont un discours décomplexé sur tout ça, et puis on dit rien, on fait comme si tout ça était normal.
Alors pour la création de... Pour la création de cette série, il y a des identités mêlées aussi, puisque vous, on le disait dans la première partie, c'est Wallen qui est votre épouse et qui a créé cette série, et c'est vous qui l'a réalisée. C'est donc d'elle dont vient le projet.
C'est vraiment d'elle dont vient le projet. L'idée, c'est que elle a grandi, elle est née à Saint-Denis, elle a grandi à Bobigny, et à l'époque, le conservatoire de Bobigny était un conservatoire national à l'époque. Et elle a eu la chance de rencontrer une enseignante qui a été sa professeure de violon. Et en fait, disons qu'elle a découvert un tout autre monde. Elle est donc violoniste de formation. Et elle a découvert tout un monde en parallèle à ce monde qu'on connaît de Françaises et de Français issus de l'immigration, etc. Toutes les complexités qu'il peut avoir, les difficultés qu'il peut avoir, mais aussi ces figures, des espèces de figures tutélaires qui tout d'un coup nous ouvrent à la culture, nous ouvrent. Et elle a eu envie de parler de ça. Et il y avait aussi cette idée que elle comme moi, on pense que au centre de la démarche artistique, il y a le théâtre est là, le verbe est là. Et donc il y avait cette idée comme ça de faire ce lien là et c'était un peu amusant. L'idée, on parlait du truc 9-3 bébé, mais bébé pour Bertolt Brecht. Enfin, c'était un peu et donc voilà, donc c'est parti de là. Mais oui, c'est son idée originale. Et puis quand j'ai lu le travail qu'elle a fait, ça m'a tellement... Enfin, j'ai trouvé ça tellement puissant et c'était moi, Leïla, et c'est nous tous, Leïla, et je lui ai demandé si elle me laissait réaliser et elle m'a permis de réaliser cette série et je suis content.
Abdel Malik, cette série, elle s'appelle en effet 9-3 bébé. Et maintenant, c'est le musicien qui est en vous, le chanteur qui est en vous, qui va vibrer. Parce que revient sur la scène du studio 104 le groupe Donna Blue, le duo qui nous vient des Pays-Bas, Djoubaka, et qui nous propose un deuxième titre. Et là, c'est tout l'enjeu de cette deuxième heure du Grand Dimanche Soir, c'est que le groupe nous propose une reprise.
Eh oui, alors ça va être 20 d'été, en anglais Summer Wine, c'est en 1966, c'est le premier grand succès du duo Sinatra Hazelwood. Et cette chanson, c'est un conte. C'est une fille qui remarque un gars avec des éperons argentés. Ensemble, ils vont voir du vin que la jeune fille a concocté, fabriqué. Et pendant que le bonhomme s'enivre et finit par roupiller, elle fait sa petite affaire. Et quand il ouvre un œil, elle a pris la poudre d'escampette, ses éperons et la menue monnaie. Mais lui, il s'en fout. Il pense qu'à une chose, la retrouver. Summer Wine.
Strawberries, cherries, and biscuits in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk down on silver spurs that jingle too. Just a few. She saw my silver spurs and said, "Let's pass some time, and I will give to you." Summer wine.
icy whispers were gone. My head fell twice inside. She took my silver spurs, a dollar.
De Donna Blue, cette reprise de Summer Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazelwood. Donna Blue, retenez bien leur nom. Leur album s'intitule Into the Realm of Love. Il est vraiment superbe. Donna Blue, c'est ce duo. Merci beaucoup. Vous serez le 24 avril au Hasard Ludique. Et puis dans nos oreilles dès ce soir. Merci beaucoup, les amis. Bedankt. Goed verblijf in Frankrijk. Merci beaucoup et bravo avec les musiciens. C'était un plaisir de vous écouter en direct sur France Inter grâce à toutes les équipes techniques. Merci à Valentin Azan-Zielinski, à Amandine Grévos-Frichou, Jean-Benoît Tétu, à la sonorisation Charles Bouticourt, Parc Instrumental Arthur Gousset, au backline Zachary Iter et Octave Rouleau-Terry, car cette émission, c'est vraiment un show radiophonique. D'ailleurs, il se poursuit en compagnie d'Abdel Malik, car Juliette Arnaud et Guillaume Meurice sont une série de questions à poser au public, cette fois, pendant un moment pour jouer. Chaque dimanche, le cadeau est assez symbolique, surtout il est drôle. Voici le jeu 100 euros. À vous, Juliette, à vous, Guillaume.
Merci beaucoup, Charline Manoulaker. Merci, les amis. Et c'est parti pour une nouvelle édition du jeu 100 euros.
Le jeu qui fait les heureux.
Les panés. Et bonsoir, Juliette Arnaud.
Et bonsoir, Guillaume. Une fois encore, nous avons sélectionné la crème de la crème. Une candidate et un candidat dans le studio 104 de la maison de la radio et de la musique.
Et vous êtes avec qui, Juliette ?
Je suis avec Pauline. Pauline, ah. Levez-vous. Pauline, comment est-ce que vous vous appelez ?
Pauline.
Ouais.
Elle s'appelle Pauline.
Oui, ok.
Pauline, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Pauline ?
Je panique. Il faut que je déclare mes impôts, alors je vais me refaire la cerise au jeu 100 euros.
Pauline, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans « jeu 100 euros » ?
Ah, mais c'est littéral ?
Ah oui, Pauline.
C'est pas la plus affûtée. A priori, Pauline, on va peut-être passer à mon candidat qui s'appelle Léo. Levez-vous, Léo. Quel est votre prénom ?
Léo.
Oh, bah dis donc, comme Léo Messi et Léo Ceausescu. C'est marrant. Coïncidence, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Léo ?
Eh ben, je suis extrêmement riche.
C'est pas vrai, par exemple, qu'est-ce que vous faites alors ?
Eh ben, je peux me payer ma facture d'électricité en une fois.
Ah la vache, pas mal. Et quoi d'autre ?
Et après, je peux aussi m'acheter une place au spectacle d'Alex Vizorek.
C'est ça, c'est pas facile à dire. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on... Ouais, depuis qu'il est parti, c'est vrai, on pense à lui, il nous regarde de là-haut.
Et alors,
eh bien,
Guillaume, nous jouons pour quel cadeau ? Et
alors là, aujourd'hui, parce que d'habitude, c'est des cadeaux fantastiques, mais alors là, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on ait jamais eu. C'est le dernier livre de Bruno Le Maire, La Voix Française.
Oh,
ah, je l'ai lu deux fois, je l'ai racheté. Enfin, c'est toujours marrant de se dire qu'avec les 26 mêmes lettres de l'alphabet, on peut écrire La Légende des Siècles et un livre de Bruno. C'est incroyable. C'est...
La langue française est épatante.
Eh bien,
c'est
je crois que c'est parti. Juliette, c'est parti pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
Non.
Et on commence avec la première question. Elle est pour vous, Guillaume.
Léo, concentrez-vous. Première question. Quel est le point commun entre Sheila, Vladimir Cosma et Thierry Ardisson ? Alors, réponse 1, ils sont morts, mais ils ne le savent pas encore. Réponse 2, ils ont été décorés cette semaine de la Légion d'honneur. Réponse 3, ils sont en colloque avec Xavier Dupont de Ligonnès. Attention, c'est pas simple, hein.
Ça pourrait être la une, mais je pense que c'est la deux.
C'est la deux, 1-0 pour Léo qui prend l'avantage. Il est incroyable ce Léo. À mon avis, Pauline, vous n'avez
ça
aucune chance.
Ça n'est rien à côté de ce qu'est Pauline. Alors, Pauline, le ministère des Affaires étrangères vient de recommander aux Français de s'abstenir impérativement de voyager, mais où ? Réponse 1, en Iran, au Liban, en Israël, pour des raisons évidentes de sécurité, à Paris. Vous n'avez pas les moyens, soyez raisonnables. Ou en Arizona, où on ressort des textes de 1864 pour empêcher les femmes d'avorter.
Je dirais plutôt la réponse 1, mais...
Bam. Ça, c'est ma Pauline, ça.
Partout. C'est incroyable, c'est égalité, mais c'est pas terminé, parce que pour les départager, nos candidats, qu'est-ce qu'on va faire ?
J'ai l'impression qu'on va faire appel à la question...
Bonus. Voilà, avec quelle ambiance de ce
combien
studio
de
j'ai les poils là.
Alors, combien de points,
combien de points 8 milliards de points, la question bonus pour être sûr.
Comme ça, on aura, voilà, on aura aucun mal à les départager.
Ouais, très
c'est
départager.
Très très bien. Alors, allez. Cette question bonus, oui. Combien, Léo, Pauline, combien de minutes par jour sont consacrées à la lecture chez les jeunes Français? Alors, ah. Je vous donne un indice. C'est un chiffre qui est contenu entre les 0 minutes d'Emeric et les beaucoup de trop de minutes de moi-même.
Allez, Léo, temps de lecture des jeunes, parce que vous-même, vous êtes un jeune, Léo.
5 minutes.
5 minutes pour Léo.
Très
bien.
Pauline. La réponse de Pauline.
J'aurais dit 15 minutes.
Oh, yo,
évidemment, c'est ma Pauline qui a gagné, puisque la bonne raison est de, la bonne, le bon chiffre est de 19 minutes.
Bravo, Pauline. C'était très bien joué quand même, Léo. Merci à vous deux. Merci, Juliette. On se retrouve la semaine prochaine pour, vous savez quoi, le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
euros.
Merci Juliette et Guillaume et les participants. Dimanche prochain, nous ne ferons pas relâche, mais presque. On vous proposera des florilèges, le meilleur des grands dimanches soirs. Et la billetterie sera ouverte dimanche prochain, dès 18h. Pour notre retour en direct le 21 avril, vous pourrez à ce moment-là réserver sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique. On est en compagnie d'Abdelmalik. C'était le temps de lecture par semaine, c'est ça Juliette hein?
Non, c'était par non. jour.
Ah, par jour ouais. Et vous, Abdelmalik, combien de temps par jour, alors? Est-ce que vous êtes au-dessus de la moyenne des 15
Est-ce
minutes?
Est-ce que vous faites mieux que les jeunes?
Je pense que je suis un peu au-dessus de cette moyenne-là. Ouais. Je lis énormément. Donc, ça doit être un peu plus.
Juste avant que vous n'arriviez et qu'on entame cette deuxième heure d'émission, on a fait un sketch et Jamil une chronique sur les coupes budgétaires dans la culture et le spectacle vivant en particulier. Alors bien sûr, et la santé, et l'éducation, et la justice, et alors, manque déjà de moyens. La culture, ça peut attendre ou pas ?
Non mais ça aussi, je trouve ça incroyable en fait. C'est-à-dire que... Si la France est reconnue dans le monde, si la France peut se vanter d'être la France, etc., c'est
grâce au pinard.
Oui, mais oui, mais j'ai envie de dire c'est la culture quoi, c'est le cœur du truc. Et si aujourd'hui on a envie de montrer notre singularité, c'est-à-dire comment en rapport à notre histoire on arrive à créer de l'harmonie, comment ensemble on arrive à tenter en tout cas faire des choses pour vivre positivement ensemble. C'est par la culture, en fait, qu'on peut montrer ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas des coupes qu'on devrait faire. Ce qu'on devrait trouver des moyens de d'aider davantage. Et les coupes, les faire ailleurs. Mais je trouve, voilà, ça encore, c'est symptomatique. Ça nous dit quelque chose de l'époque. Ça nous dit, finalement, que aujourd'hui, on n'a aucune considération pour le savoir, la culture, l'intelligence et tout ce qui en découle, finalement. Et pour moi, c'est grave. On est en train de vivre, en fait, quelque chose d'apocalyptique. Et on est là comme si c'était rien. Et les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, les gens de pouvoir, qui ont la possibilité de faire changer les choses, eh ben j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui vivent hors du monde, hors qui n'ont aucun rapport aux autres, qui n'ont c'est assez étrange et pour dire vrai c'est assez flippant. Mais vous existez. Voilà, on est là, on parle de ça, on et
pour
c'est ça qui est important. Et vous êtes là et on est là et on essaye de, on est la résistance quoi. Donc voilà. Et ça donne de l'espoir.
Oui. Et le service public. Je rappelle que Votre série 9-3 bébés, c'est une série qu'on peut voir sur France TV Slash.
C'est ça.
Voilà, une série créée et écrite par Wallen, réalisée par vous, Abdel Malik, et qui est disponible à partir de vendredi. Et tout ça, c'est le service public, bien sûr.
C'est
qui,
le service public,
tant qu'on est là, on résiste,
exactement,
on partage, on essaye de réfléchir ensemble, on essaye de rire aussi. Et au moment où vous nous écoutez en direct à la radio, quelques étages au-dessus de notre studio, la rédaction de France Inter prépare la matinale de demain. Et c'est comme ça dans plein d'autres rédactions. Alors si ça vous dit, on va aller écouter comment ça se passe, la préparation des journaux et de l'actualité de demain.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de l'équipe TV.
Bon, vous avez vu, c'est Beansport qui va choper les droits de la Ligue 1 pour près de 700 millions d'euros. Donc, nous aussi, il nous faudra des droits sportifs, mais pour pas cher, quoi.
Ah ouais ? On a combien ?
Bah là, j'ai calculé ce matin, on a 35,25 €.
Ouais. Moi, je peux avoir les droits du championnat du monde.
Bah, c'est génial, ça. Le foot ? Le basket ?
Non, le concours de mangeurs de hot-dog.
Ouais, bah, bon.
Sinon, moi, je peux avoir la première division du championnat de foot de Belgique.
Ça se passe comment, le concours de hot-dog, alors
Pendant ce temps-là, à la rédaction des sports de Canal+.
Quelqu'un, les codes Canal, là?
Pendant ce temps-là, à la rédaction de l'équipe TV.
Les chestnuts, donc le champion du monde, il est capable de mettre, attention, 5 hot-dogs dans la bouche en même temps.
Bon, alors attends, ça me rappelle quelqu'un...
Non, non.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Boulkies Magazine.
Non, mais moi, je pense qu'il y a trop d'argent dans le foot, quoi.
Quoi?
Il veut mettre un agent dans son fut.
À quoi bon ?
Tu veux du jambon ?
C'est lourd !
Pendant ce temps-là, à la rédaction de l'équipe TV.
Et le saviez-vous, hein ? Le saviez-vous ? Pour faire passer des hot-dogs, Chestnut, il les mouille avant.
Ah bah ça me rappelle la même personne.
Non ! Non ! Non, non et non, non, j'en ai marre de vos blagues de beauf ! Là maintenant on fait un truc classe !
Ouais.
Y a quoi après ?
Après, ouais, là, tout de suite. Bon, ça va peut-être pas vous plaire, Juliette, mais je crois qu'il y a le fameux Émeric Lombré.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Hey, vous devez deviner qui je suis. Elle est lourde, cette voiture. Émeric Lombré.
Incroyable.
Allez, on s'accroche. La semaine prochaine, c'est les vacances. Moi, je vais en profiter pour aller voir mes parents. Faut que je leur parle un petit peu en ce moment. Ils font n'importe quoi. Hein, je sais pas ce qui se passe, mais on est d'accord que normalement, tu sais, les vieux, normalement, ça dépense rien, les vieux, quoi. Tu sais, ça a besoin de rien. Ça a besoin d'eau, de rillettes et de Cyril Ferraud. Mais là, je sais pas. Mes parents, je sais pas ce qui leur arrive, quoi. Je sais, c'est Monopoly. Cette semaine, mon père, il a acheté 4 sécateurs, 8 crêpes parties et 17 pneus neige. Il habite en Bretagne. La semaine d'avant, c'était un bain soleil, un salon de jardin et 6 panneaux solaires. Il habite en Bretagne. Ma mère, pareil, elle m'a dit, j'ai craqué, j'ai acheté 2 vélos elliptiques. Je dis, pourquoi 2? Elle me dit, le premier, il avançait pas. Je dis, et le deuxième? Elle me dit, ah, je crois que j'ai la poisse. Non, mais c'est grave, quoi, merde. Ils sont en train de dilapider tout mon héritage. Merde. Le seul truc qu'ils vont me laisser, c'est un puzzle Chambord et un chromosome en trop, quoi. Non, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être le fils de Bernard Arnault. C'est... Ou non, mieux, être le fils de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, il a plein d'argent, Guillaume. En plus, tu dépenses rien. C'est vrai que tu dépenses rien, Guillaume. C'est vrai? Non, mais tu roules en Clio, tu vas chez Steph Coiffure. Ouais, tout le monde voit bien que t'as pas de co-auteur. Où va l'argent, Guillaume? Où va l'argent? L'héritage, c'est comme quand t'es né en Meurthe et Moselle, quoi. C'est injuste. Alors, moi... On comprend les coupes de budget. Bon, alors, moi, je crois que pour éviter toute injustice, inégalité et encourager la méritocratie, je suis pour la répartition de l'héritage. Alors, camarades, est-ce que vous voulez une répartition équitable de l'héritage?
Oui.
Ouais, là j'imagine Poutou derrière son transistor. Vas-y, vas-y, continue Aymeric, continue. Viens, on part en voyage à Florange. Ah, je vais te faire un enfant. Doucement Philippe, doucement. Ouais, bon, allez, pas d'impro. Bon, alors... Comment on va faire? Bon, alors, pour la répartition. Premièrement, à la mort d'une personne, on dit qu'on met toutes les économies dans une boîte, qu'on appellera la boîte à héritage. Prenez des notes, les gauchos, hein, parce que nous, le problème de la gauche, c'est qu'on a des bonnes idées, mais après, on boit. Secondo. Secondo. Alors après, on cache la boîte à héritage dans une salle qui s'appelle salle où il n'y a pas la boîte à héritage, afin d'éviter des larcins.
Quel niveau de langage soutenu.
Non, allez, on enchaîne. Plein de cul cette émission. Non, alors, allez.
Et troisièmement,
tous les ans, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ouvre la boîte à héritage délicatement et on redistribue de manière équitable à tous les Français, sauf à Bernard Arnault, Guillaume Meurice et ceux qui ont les Tesla. Alors, je vois déjà Delphine Arnault venir me dire « Mais Aymeric, papa, il a travaillé dur, il mérite son argent. » Ouais, lui, peut-être, mais pas toi. La fille de Bernard Arnault, elle est née le 4 avril, le 5 a été PDG de Dior, quoi. Je veux dire, t'sais, elle a autant de mérite que Charline à un concours de la NASA, parce que tellement elle est intelligente, en fait, Charline. Tellement. J'anticipe mon renouvellement. Non mais en plus, personne n'empêche Bernard de tout dépenser avant de mourir, tu vois, si vraiment il veut pas partager ce gros rat. Mais le problème est que Bernard, il faudra qu'il dépense 200 milliards en très peu de temps et pas en patrimoine. Donc, il faudra qu'il achète que des biens de consommation, quoi. Donc avec mon père, on a réfléchi, le premier truc qui nous est venu en tête, c'est les crêpes. Alors, à deux euros la crêpe, ça fait 100 milliards de crêpes. Et c'est là que mon père, il m'a dit, bah tu vois que j'ai bien fait d'acheter ces 8 crêpes par type. Merci de m'avoir écouté.
Aymeric Lompré, dont la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de France Inter, bien sûr. Merci à toutes les équipes du web. Merci à Camille Waldschmidt, à la reprographie, à la machinerie, Grégory Mortier, Adrien Vivaldini. Nous sommes en compagnie d'Abdelmalik. Dans cette série 9-3 bébé, cher Abdelmalik, il y a plein de jeunes acteurs, actrices, qui incarnent finalement aussi peut-être ce que raconte cette série, hein, d'être nourri par l'art, de découvrir le théâtre à un moment dans sa vie, parfois par hasard. Comment vous avez fait ce casting que vous avez choisi? Vous avez formé une troupe?
Ouais, presque en fait. Mm-hmm. C'est en 2019, j'avais monté les Justes au Châtelet. Mm-hmm. Et j'ai constitué... en fait, je suis allé en Seine-Saint-Denis encore. J'ai cherché des acteurs amateurs, des acteurs et actrices et tout ça. Et donc, j'en ai pris une dizaine et j'en ai pris d'autres qui étaient à Sciences Po. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer des jeunes du même âge, mais de milieux socioculturels totalement différents et qui n'ont pas l'habitude de... Et donc, j'ai fait venir ces jeunes à Aulnay-sous-Bois. Et ensemble, on a travaillé le texte de Camus, etc. Et de là, en fait, il y a plein de jeunes qui... Enfin, c'était comme la naissance d'une passion. Il y avait quelque chose de fabuleux. Et je leur ai dit, après ça, on va continuer. Et donc, les jeunes qu'on a recrutés, ces jeunes acteurs, on les a pris pour les mettre dans la série ensuite. Et l'idée, c'est de faire, en fait, c'est de faire une continuation. On a remarqué, mon épouse et moi, que souvent, quand on voulait aider ce genre de jeunes, etc., à faire des choses, eh ben, on les prenait pour une sorte de one shot, c'est-à-dire on leur fait faire un projet, le projet est fabuleux, etc., et puis après on passe à d'autres. Alors que la réalité, il faut continuer, il faut creuser le sillon. Et donc on a pris ces jeunes en se disant, bah c'est votre passion, on va continuer, on va pousser. Et c'est comme ça qu'on a la plupart des jeunes qui sont dans cette série-là, c'est des jeunes avec qui j'avais travaillé précisément sur Les Justes avant. Donc voilà, continuer comme ça, creuser le sillon, à développer cette passion qui est le fait de jouer, se connecter à l'art, à la culture, etc.
Et vous pourrez donc les voir à partir de vendredi, on sera le 19 avril, sur France TV/93BB, série de Wallen réalisée par Abdelmalik. Le grand dimanche soir, il s'achève toujours avec une petite chanson, parce que sinon il s'achève jamais. Et on rend l'antenne le lundi matin après. Et après, ouais, c'est l'épuisement, mais bien sûr. Alors il faut qu'arrive Frédéric Fromet. Ouais.
Bonsoir. Alors après, les médecins, les pharmacies sont en voie de disparition, comme quoi l'opération PlaceNet XXL dépasse tous ses objectifs. Bref, les déserts médicaux. Quand t'es dans le désert et que t'as mal aux dents, t'as plus qu'à prendre une paire de tenailles pour t'arracher les chicots et c'est réglé. Quand tu crèches dans un bled et que ça va pas trop, t'as qu'à te soigner toi-même en regardant des tutos.
Le cancer du côlon sur YouTube digestif. Attention, il y a des jeux de mots. Quand tu crèches dans un bled et si t'as du réseau, si tu as internet, t'as pas besoin d'un hosto. Pour un enfant malade, va sur Wikipédia. Quand t'es dans le désert et que t'as mal partout, ça peut être salutaire d'attendre que ça passe plutôt que d'avoir affaire à Patrick Peloux. Pour les maladies mentales, pour les gens qui débloquent, y a la médecine chinoise, l'application Tok Tok. Pas besoin d'un chirurgien pour la lobotomie, alors qu'un projet de loi sur la fin de vie est débattu, je crois que c'est déjà réussi. Y a déjà plein de régions où on t'aide à mourir. Quand t'es dans le désert avec des métastases, t'as plus qu'à en rire, en faire des jeux de mots comme l'histoire de Pépé, Chimio et mes métastases. Y a des gens mal en point qui font des kilomètres pour trouver un médecin, là on entend moins ces bêtes. Les fachos pour dénoncer le grand déplacement. Y'a des gens qui doivent prendre une semaine de vacances à seule fin de se rendre chez le protologue à l'autre bout de la France. Comme ça ils sont sûrs d'avoir vraiment mal au cul. Quand t'es dans le désert, que t'as mal à un pied, tu te demandes comment faire, tu peux toujours tenter de participer aux Jeux Paralympiques. Quand t'es dans le désert avec le dos bloqué, tu te demandes comment faire, fais comme un dirigeant politique, profite, reste couché. Quand t'es dans le désert, je pense que t'as pigé que vu les efforts à faire, il vaut mieux être en forme, être en bonne santé pour se soigner.
Merci. Merci beaucoup, Frédéric Fromet. Encore une magnifique chanson qui clôt ce grand dimanche soir. Merci à notre invité, Magic Abdelmalik. Merci beaucoup, quel plaisir de vous entendre, mon cher Abdelmalik. Merci à Donna Blue, le groupe en live. Merci à Ray Mendez, qui a fait le tremplin en première partie. Merci à notre attaché de production sur tous les fronts, Alexia Lacour. À la réalisation, François Audouin. Rédaction en chef, Ramzia Sadi, qui assure aussi la coécriture avec Xavier Noé et Romain Forgeor. Merci à Mathilde Sour, qui se charge de l'édition de nos pages web. Merci aux hôtes et hôtesses d'accueil et des loges. Dominique Fournier, notre régisseur de production ce soir, merci à lui. Et puis c'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Aymeric Lompré, Laëlia Véro, Areski Sugar, Jubaka, Jamil Lechlag, Frédéric Fromet
et Charline Vanhoenacker.
Et après le journal, vous retrouvez les petits bateaux de Camille Cronier et ensuite Masquer la plume avec Rebecca Manzoni. Je vous dis à dimanche prochain pour des florilèges.